Où il est, le Sarko? Où il était, le Sarko? Tu veux venir ici? Salpette! Où il est? Ah, le voilà, le Sarko! Oh, il est beau, le Sarko! Il est joli, le Sarko! Viens, donnez la papa! Donnez la papa, Sarko! Couchez, Sarko! Salpette! Où il est, le Sarko? Où il est, le Sarko? Ah, salpette! Où il est parti? Ah, le voilà, le petit Sarko! Il est gentil, le Sarko! Gentil Sarko, donnez la papa de Sarko, couchez, salvette, couchez, voilà, c'est bien. Non mais alors.
Bonjour à tous, bonjour à toi Daniel et à toute ton équipe de déménageurs de clichés. J'ai entendu l'autre jour que la réforme des régimes spéciaux de retraite avait été dessinée dans ses grandes lignes et selon le ministre Fillon, qu'il s'était inspiré des régimes des fonctionnaires. C'est vague pour l'instant. Mais... ça m'a rappelé un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, écrit par Claude Lévy, publié aux éditions Calmant Lévy, et qui s'appelle « La bulle de la République, enquête sur le Sénat ». Dans cet ouvrage, on apprend entre autres, vers la page 145, les salaires et les avantages dont jouissent nos représentants au Sénat. Juste pour vous donner un avant-goût, par exemple, un sénateur gagnait en moyenne au 1er janvier 2005 13 000 euros par mois, cette somme comprenant un salaire de 5 257 euros, plus des indemnités de résidence, de fonction et de bureau. Ça, c'est le minimum, car les sénateurs voyagent aussi gratuitement sur le réseau SNCF, RATP, les taxis parisiens. Ils ont droit par an à 40 allers-retours Air France sur les vols nationaux, 6 allers-retours Air France sur l'international. Ils ne payent pas les péages, l'essence, les timbres, le téléphone, et ils bénéficient de prêts au logement à des taux défiant toute concurrence. S'ils sont bien placés dans la hiérarchie, comme c'est le cas pour le premier questeur de l'UMP, entre autres, ils sont logés, et pas dans des petites pièces cuisine, vous vous en doutez, avec maître d'hôtel, cuisinier, femme de ménage, serveur, etc. À tout ceci s'ajoutent les primes de nuit, un autre mystère top secret de la République, je cite l'auteur, dont bénéficie la majeure partie des fonctionnaires employés au Sénat. La retraite des sénateurs est à taux plein de leur salaire lorsqu'ils ont accompli 18 ans de vie parlementaire. Ce n'est qu'un résumé, car je ne voudrais pas encombrer le répondeur de l'émission. Mais voilà, je me posais donc la question, de quel type de fonctionnaire s'est inspiré le dauphin de France pour concocter sa réforme?
Monsieur Mermet, bonjour. J'en ai assez. Et je vais vous dire pourquoi j'en ai assez. Ça suffit, ce prosélytisme. Alors maintenant, je vous dis stop. Et j'ai envie de vous dire, moi aussi, hein, je vais vous le dire, allez voir là-bas si j'y suis. Et foutez-moi la paix. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Au revoir, monsieur Mermet. Je ne peux pas vous dire qui je suis. Vous comprendrez bien. Hein? Au revoir.
Oui, salut à toute l'équipe. Je voulais vous demander juste un truc. Quand vous parlez de la position prise par notre cher chef de l'État, Nicolas Sarkozy, au procès des caricatures, j'aimerais que vous fassiez pas comme tous les autres soi-disant journalistes de France Inter et d'ailleurs, c'est-à-dire que vous présentiez la version intégrale des faits, à savoir que dans le même temps, Sarkozy, puisqu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque, a poursuivi en justice le dessinateur Placide, dessinateur qui était l'auteur d'une caricature qui apparaissait dans un bouquin publié chez l'Esprit Frappeur consacré à la police et à ses méfaits. Ce dessin montrait un policier avec un nez de cochon, et donc Sarkozy a poursuivi ce monsieur, a fait poursuivre ce monsieur pour diffamation envers la police nationale. Voilà, donc la liberté d'expression selon Sarkozy, c'est dessiner le prophète Mahomet avec une bombe dans le turban, mais dessiner un policier qui n'existe pas, qui est fictif, mais qui porte un uniforme bien réel, avec un nez de cochon, c'est diffamer l'ensemble de la police. Comme si avoir un nez de cochon, d'ailleurs, c'était un défaut en soi. On a le physique qu'on a. Voilà, donc ça serait bien de préciser cette histoire à chaque fois que vous évoquez le sujet des caricatures. Sinon, on va vraiment croire que Nicolas Sarkozy est un ami de la liberté d'expression. Et dans ce cas-là, on pourrait aussi penser que Bush ou Pinochet sont des grands philanthropes. Voilà, merci pour ce que vous faites et continuez la lutte. Ciao, ciao.
Oui, bonjour, c'est Françoise de Normandie. Moi, je voudrais adresser un petit message à Monsieur Sarkozy, qui n'a pas grand-chose à voir avec la politique. Je voudrais lui dire que je suis particulièrement choquée qu'il expose les enfants de ceux auxquels il va l'enterrement, c'est-à-dire comme hier, le soldat du GIGN, il les expose devant les caméras avec lui. Je trouve ça particulièrement déplorable et particulièrement bouleversant. Ces enfants qui sont dans le chagrin, on n'est quand même pas obligé de les exposer devant les caméras avec lui. C'est quand même pas une obligation. ça, c'est pas de la politique, ça, monsieur. Ça, c'est simplement de l'humanité. Et donc, vous vantez. Alors, faites-en dans cette occasion, faites-en montre, je vous en prie.
Je voudrais intervenir pour dire que, quelque part, les gens et le monde sont intéressés par ce système économique, puisqu'ils en redemandent. À chaque élection, on remet au pouvoir des gens qui vont réinstaller ce libéralisme à outrance, ce capitalisme sauvage, ce capitalisme à visage non humain. Voilà. Et bien, c'est comme ça, c'est désolant. Il faut faire avec, on construit un monde ultra-libéral. C'est comme ça. Au revoir.
Et voilà, il a bien raison cet auditeur, et on va aller dans ce sens-là aujourd'hui. Il faut s'adapter, il faut comprendre comment s'enrichir. Voilà, aujourd'hui jusqu'à 16h, la base J'y suis va vous aider à vous enrichir. Il était grand temps qu'on vous donne toutes les clés pour devenir riche. Enrichissez-vous, c'est notre thème du jour. Auparavant, parmi les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale, il y en a quelques-uns qui répondent à une proposition honnête qui a été faite, celle des renseignements généreux de là-bas, si j'y suis. Collaborer aux renseignements généreux de là-bas, au RG de là-bas, c'est-à-dire c'est quoi? Ben, c'est trouver, dégoter des petites brèves, des petites infos qui peut-être auraient échappé à la sagacité des journalistes que nous sommes. Ça peut arriver, vous savez, des petits renseignements, des petites choses bien précises comme ça, bien sourcées, bien exactes. Eh bien, si ça vous intéresse de nous le faire savoir, vous avez à votre disposition le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. C'est des gens, je crois, de Grenoble qui avaient inventé ce terme de renseignement généreux. Eh bien, on leur emprunte et ça peut donner des choses comme ça. On s'enrichit, mais auparavant, encore quelques messages comme celui-là.
Bonjour Daniel, quelques données au titre des RG, des fameux renseignements généreux. Cela concerne les grandes fortunes. Le total des 500 plus grosses fortunes professionnelles de France est passé de 200 à 280 milliards en un an. Ces 500 plus grosses fortunes pèsent aujourd'hui 15% du PIB contre 6% il y a 10 ans. Ces fortunes ont profité de la bourse et des opérations de rachat d'entreprises. On y trouve en tête Bernard Arnault du groupe LVMH avec 23 milliards. 23 milliards d'euros, ça représente 1,5 million d'années de SMIC. Deauchamp, L'Oréal, du groupe PPR suivent avec 17, 15 et 10 milliards d'euros. Ces sources chiffrées sont issues du magazine Challenge, mais ont surtout été décryptées par le magazine L'Humanité Dimanche dans un de ses numéros de juillet. C'était Guy de la région lyonnaise qui vous dit à bientôt pour d'autres RG. Salut Daniel.
Ceci est un message des AMG de Blois. Voilà, nous vous informons que la 10e édition des Rendez-vous de l'Histoire aura lieu à Blois du 18 au 21 octobre et sera consacrée au thème l'opinion, l'information, la rumeur et la propagande. C'est donc dans cette dynamique que les AMG Blaisois vous donnent rendez-vous tous les jeudis au café littéraire Liberté, avenue Wilson à Blois. Si vous souhaitez participer, partager ou écouter sur ces thèmes chers qui vous unissent, à savoir info, rumeurs et propagande, le rendez-vous est, je le rappelle, le jeudi de 18h à 19h. Ça dure une heure à peu près. Au café donc Liberté à Blois. Quant aux médias alternatifs de France et d'Europe et reste du monde, vous pouvez nous contacter sur lesamisdelegalite.org. C'est un site internet. Bon, seront présents sur le terrain pendant ces rendez-vous de l'histoire le journal Le Plan B, l'association Les Amis de l'Égalité, Les Amis de là-bas si j'y suis, la librairie libertaire et alternative La Niche, Acrimed et d'autres encore. Au revoir donc, à jeudi si vous le souhaitez.
Bonjour à tous, c'est Pierrot du Repère de Toussaint. Voici des petites nouvelles. Le Repère de Toussaint, c'est un village de 384 habitants au milieu des betteraves. C'est près de Milly-la-Forêt au sud de l'Essonne. Donc ce vendredi 14 septembre, tous les AMG sont invités à se retrouver au café du village, la tête des trains, à 20h30, place de l'église. Pas de sujet précis pour ce premier repère de la rentrée, car ce sera justement le moment de blablater pour en choisir un. Mais on a déjà une petite idée pour démarrer. Le vendredi 6 octobre, une rencontre avec Jean-Pierre Filiu et son bouquin « Les frontières du djihad ». Voilà, c'est une proposition pour asticoter votre imagination future. Donc, rendez-vous ce vendredi 14 septembre à 20h30 au Café du Village, la Tête des Trains, à Tousson, près de Milly-la-Forêt, Sud-Essonne. Message donc de Pierrot, Polo, Dominique, les animateurs du Repère. Ciao.
L'épilogue du livre de Seymour Hersh, journaliste américain connu, sur la hiérarchie du commandement de son pays, se termine par... Bien des gens croient que George Bush est un menteur, un président qui, sciemment et délibérément, déforme les faits pour un bénéfice politique. Mais mentir semblerait impliquer une compréhension de ce qui est souhaité, de ce qui est possible, et des meilleurs moyens pour y parvenir. Une explication plus plausible est que les mots n'ont aucune signification pour ce président, au-delà du moment présent, et qu'il croit ainsi que le seul fait de prononcer les phrases leur donne réalité. C'est une possibilité terrifiante. En marge de cette hypothèse, on peut se demander si le discours africain de notre président n'était pas tout bêtement à usage interne, destiné à un électorat bien précis dans son credo stagnant, courtisé à outrance. Adeline Finistère.
Bonjour, je suis en colère. Je viens d'entendre une information concernant M. Brice Portefeux. Il demande un quota d'expulsion et qui convoque les préfets qui n'ont pas respecté ça. Honte. Honte pour notre pays. Honte à nous. Franchement, je suis vraiment en colère, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir.
Chaque jour, vous avez une espèce de d'explosion, un spasme.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier.
Vous avez le côté rationnel qui vous dit « Ok, j'ai un gain, clôturons la position. » Et puis il y a le côté mauvais de soi-même qui vous dit « On reste dans la position, on augmente la taille de la position. » Donc pour le trader, c'est en fait un véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ces mauvaises pulsions.
Il est bullish, il est bearish, un chandelier bullish, une tendance bullish ou une tendance bearish, c'est une tendance baissière, etc.
Et vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish?
Moi, je suis plutôt bearish sur le CAC.
Vous avez une espèce d'explosion, un spasme.
Côté valeur, l'actualité s'avère plutôt fournie avec une avalanche d'applications chiffres qui se dévoilaient par les silences.
Salut, c'est la baisse, j'y suis, Daniel Mermet, avec François Ruffin, plus riche que riche.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, vous savez, nous on a créé le salon il y a déjà 8 ans maintenant, c'est quand même un bon moment, donc on a tous les courtiers qui viennent, les principaux courtiers, donc on a des courtiers qui font... des marchés américains, très vifs, très trading, à fort effet levier, du forex. On a également des gens qui font des varans. Les varans aussi, c'est très trading, c'est beaucoup de trading, du day trading. On a d'autres produits, donc les varans, Commerce Bank, les varans Société Générale, Click Options, et puis alors beaucoup, les plus gros courtiers sont venus avec nous, Boursorama, Cortal Consors, Dubu, vous l'avez vu, des courtiers Forex. Voilà. Donc vous avez même des Italiens, beaucoup de Suisses également qui s'inscrivent. L'idée, présenter aux gens quelque chose qui leur permet d'apprendre une recette, une technique, une méthode. C'est ça l'idée avant tout. Vous avez pu voir, tout à l'heure j'ai fait ma conférence, là c'est Steve Leeson en ce moment qui fait sa conférence, l'après-midi il y aura Raggy Horner, il y aura du trading sur Forex, etc. Il y en a eu 7 avant, on a eu Bollinger, on a eu Bob Prechter, on a eu Glenn Nelly, on a eu Richard Arms, on a eu plein, tous les plus, Linda Bradford-Rajke, tous les plus grands de l'analyse technique et du trading dans le monde. On va y finir. Je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir encore que peut-être Alexander Elder qu'on n'a pas fait venir, pour les puristes, un peu les gens qui sont un peu pointus, ils connaissent ça.
Donc c'est donner les instruments en fait à tout à chacun, à tout le monde,
oui,
de faire du trading de manière plus scientifique.
Voilà, tout à fait. Quand les gens ont bien compris ça, après ils se mettent réellement à la bourse. Et c'est ces gens-là qui sont intéressants à développer.
Alors c'est la bourse, mais c'est la bourse à court terme. Là, c'est du day trading au jour le jour. On a vu des démonstrations 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure.
Oui,
c'est de l'investissement à court terme.
Alors regardez, de toute façon, quand vous avez un marché, un courtier Forex. Alors vous avez...
Forex, c'est quoi?
Forex, c'est foreign exchange, c'est-à-dire c'est le marché des devises. Ça, c'est le marché très à la mode aujourd'hui, et tous les gens qui sont un peu pointus commencent à faire le forex.
Le titre Yahoo, donc,
Carrefour gagne 0,4%. Rien, vous n'y comprenez rien. On est en train de regarder nos écrans de contrôle. Eh bien, 78,17% des auditeurs de là-bas, si j'y suis, n'y comprennent rien. Ah, ne comprennent rien. Ah, au sabir que l'on vient d'entendre. Et c'est très grave, parce que c'est bien là ce qui vous empêche de vous enrichir. Il est grand temps pour vous d'apprendre à trader sur le forex, d'apprendre à gérer des stocks de protection, d'apprendre tout sur les varans, de vous initier à la pratique des chandeliers japonais, maximiser les profits potentiels de chaque trade sur le momentum trading. Et oui, il est grand temps, le vent tourne, les temps changent, il faut s'adapter. Alors aujourd'hui, avec François Rupfin, nous allons au salon du trading à l'espace Cardin, 1 avenue Gabriel à Paris, et nous allons vous faire découvrir le monde enchanté du trading et qui sont ces traders. Qu'est-ce que ça veut dire trader ? Eh bien, ça veut dire intermédiaire financier qui réalise des opérations de placement ou de spéculation. On devrait dire en français opérateur de marché, mais quand même, trader, c'est quand même beaucoup plus chic. Et peut-être que grâce à nous, d'ici à 16h, vous apprendrez, comme je vous l'ai promis, à devenir plus riche que riche. Tant il est vrai que, par exemple, un monsieur comme Dries Ben Brahim de Goldman Sachs à Londres est quelqu'un qui gagne autour de 110 000 euros par jour de façon très très régulière. Il faut peut-être rappeler aussi que la moitié des Français disposent d'un niveau de vie inférieur à 1315 euros et de 1975 euros pour un couple, que 6,86 millions de Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qu'en 3 ans, la moitié des chômeurs ont perdu leurs indemnités, tandis que le nombre de smicards augmentait de 21%. Quel rapport, me direz-vous, entre ces riches mirobolant et formidable, ces Golden Boys que nous allons rencontrer. Et ce que je vous dis là, y a-t-il un effet de vase communicant ? Autrement dit, les spéculateurs, la spéculation vivrait-elle au détriment du bon peuple que nous sommes ? C'est bien possible et on essaiera en tous les cas de se le faire expliquer. Vous avez compris, nous allons à la rencontre des vampires, mais dans notre main, nous serrons très fort une gousse d'ail sur laquelle on peut lire ceci. Pour aimer les hommes, il faut détester fortement ce qui les opprime. Jean-Paul Sartre.
Des années que l'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue. Il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés. Des puces électroniques surveillaient sans mal les murailles de lingots tressées dans la cale. Poussé par le vent des marchés, la coque passait entre des récifs de chiffres carrés. Jamais l'opulence n'expirait, une signature au dos de la carte suffisait à pousser le navire loin des rades. Ils avaient le code secret et la parade, là où ils mouillaient, dans des golfes sûrs, dans le calme des baies, les doigts sur le clavier, à l'abri des regards indiscrets. L'équipage hilar faisait gicler la monnaie. Sur une mer d'huile bien vernie, mieux valait entretenir de bons amis. Lâcher des pourliches aux institutions financières, s'entendre avec une poignée de corsaires. Les navires s'offraient de royales escales, où les hôtesses psalmodiaient le nom des capitales. Et le navire cinglait vers de plus riches océans, où les vents soufflent à crédits illimités. Hélas.
rafale déchiquetèrent les voiles. Une tempête se levait sur les places occidentales. L'équipage à découvert sous l'ouragan voyait refluer toutes les vagues de paiement. La carte bleue se fissurait à l'horizon. Dans les cales, les puces piquaient comme des scorpions. Des condors désargentés hurlaient dans le ciel. Une peur bleue leur serrait la rondelle. Les membres d'équipage écopaient le liquide, le gaz, la queue.
Pourquoi vous voulez faire du forex, monsieur ?
Eh bien, j'hésite à faire du forex. Moi, je suis un particulier et j'hésite à faire du forex car j'ai l'impression que je ne suis pas de taille à lutter contre des professionnels qui traitent, mettons dit, 3 000 milliards de dollars par jour avec certainement des super génies.
Et vous intervenez sur quoi pour l'instant, vous ?
Euronext.
Euronext.
SRD
quand même. Vente à découvert.
J'en ai fait un peu.
Un peu. Donc vous progressez tout doucement.
Avec BNP Paribas, il y a 15 jours. D'accord. Avec Renault, il y a 15 jours.
Pas de futur encore. Parce qu'on peut vendre à découvert. On est dans un marché où on essaye de jouer vraiment toutes les finesses du trading et même vendre alors qu'on n'a rien. Je n'ai rien. Alors ça, pour les gens classiques sur les actions, ils ne comprennent pas. Mais je n'ai même pas d'action France Télécom. Je commence par en vendre. Comment vous faites ? Ben, je vends. Je dis à mon courtier, j'en vends. Je pense que ça va baisser. J'en vends. Vends 500 France Télécom. Et ensuite, le but, c'est déboucler sa position en rachetant sa position. Donc, on considère d'abord les actions classiques, le SRD, le futur et le marché roi quand même, le vrai marché quand même, c'est le Forex.
Le Forex, c'est achat de dollars contre euros.
C'est les devises. Voilà, absolument. C'est les devises. Et aujourd'hui, et grâce à un salon comme aujourd'hui, on vient prêcher la bonne parole et dire que le Forex est enfin à la portée de tout le monde. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est très dynamique. Donc, quelqu'un va acheter à 9 heures. Là, dans cet exemple, on a acheté vers...
Vous montrez l'écran. Hein.
Donc, ici, on a acheté donc en date valeur 27. On l'a acheté ce matin vers 10 heures. On a acheté 500 000 euros yens à 156,53. Et il est maintenant pas loin de midi, je pense. Et on a déjà gagné 135 000 yens. Ça représente à peu près 1145 dollars, 1000 euros. Quelqu'un de normal va déboucler sa position maintenant, voilà, au bout de 2 heures et prendre son profit.
Alors, derrière vous, il y a une affiche. C'est marqué Bullish Attitude. Donc l'attitude du taureau avec un taureau qui est représenté.
Ouais.
C'est l'attitude que vous recommandez pour... Alors, percer sur les marchés financiers.
C'est un peu agressif, hein, c'est un courtier agressif, etc., qui essaye de...
Le courtier répond qu'il est plus dynamique qu'agressif, plus pour la dynamique que pour l'agressivité.
Bullish, c'est l'aspect taureau, c'est haussier, c'est le symbole des haussiers aux États-Unis, symbole américain. Et le symbole baissier étant bearish, c'est-à-dire les ours qui sont lourds et qui pèsent sur le marché, etc. Donc souvent, on entendrait ce type de remarques, il est bullish, il est bearish...
Alors derrière vous, il y a le taureau. Pour vous aussi, c'est un sport, le trading ?
Oui. C'est un sport. Les gens, je me souviens d'une vieille mamie, là, de 86 ans, qui me disait faire du trading sur Nasdaq, des allers-retours, du day trading sur le Nasdaq, tous les soirs, était devant son écran, etc. Ça paraît un peu surprenant, mais on voit que les gens s'y mettent de plus en plus, parce qu'on peut être très bien assis derrière son bureau et tout à la fois vivre une certaine aventure.
Prêcher la bonne parole. Voilà ce que fait André Malpel, cet organisateur de ce salon d'analyse technique et de trading. André Malpel, c'est véritablement le missionnaire des marchés financiers qui va enseigner à toutes les nations, à chacun, le bonheur, la chance de ce que vous avez déjà compris, qui n'est rien d'autre que une sorte de secte, un monde avide et cupide, celui du profit fou. Bon, bah vous dites, on va passer une heure dans un genre de casino de Las Vegas avec des gens un peu la même chose, quoi, des gens un peu addicts qui font du pognon. Mais y a-t-il un système de vases communicants ? Est-ce que ces spéculations, oui ou non, se font au détriment du bon peuple que nous sommes. Nous sommes évidemment le bon peuple. Et au détriment de l'économie. Est-ce que plus les uns, ceux-là, s'enrichissent, est-ce que ça fait que les autres s'appauvrissent? Alors avant de continuer ce reportage, c'est pas mal de l'éclairer avec une sorte d'avertissement, d'éclairage a priori, comme ça, avant de continuer le voyage, la balade, avec Dominique Plion. Dominique Plion, il est prof d'économie, il est président du conseil scientifique d'ATTAC, et il a longuement réfléchi sur ces questions, la question étant, y a-t-il un effet de parasitage? Le spéculateur est-il ou non, monsieur Plion, un parasite?
Monsieur Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie. Vous êtes par ailleurs président du conseil scientifique d'ATTAC.
Tout à fait, oui.
Je me suis rendu il y a une dizaine de jours au salon du trading. Et il apparaît qu'il y a un jeu sur les monnaies, un jeu sur les actions, un jeu sur les contrats futurs. Mais est-ce que tout ça, c'est juste un casino complètement détaché du monde? Ou bien ça, est-ce que ça a des conséquences sur le monde social, sur le monde économique? Est-ce qu'il y a un lien entre ces spéculateurs et, par exemple, les salariés précaires?
Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un lien très, très fort, qui évidemment n'est pas toujours visible par les traders eux-mêmes, puisque eux voient ça à leur niveau, ce que nous, économistes, appelons au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des opérations individuelles, et ils ont le sentiment, vraisemblablement, que la spéculation qu'ils mènent n'a pas beaucoup d'effet sur le reste de l'économie. Mais en fait, c'est complètement erroné comme conception. Je voudrais reprendre tout simplement l'analyse qui me paraît la meilleure de la spéculation, qui est celle qui a été proposée par Keynes, John Maynard Keynes. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit finalement, dans la sphère économique, au sens large, il y a deux types d'activités. Il y a ce qu'il appelle l'activité d'entreprendre, c'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui prennent des risques en mettant de l'argent pour acheter des matières premières, acheter des machines, payer des salariés pour produire de la richesse, c'est-à-dire des biens, des services, pour bien sûr la revendre avec un profit. Et ce profit rémunère d'ailleurs les risques qu'ils prennent, comme tout entrepreneur. Et Keynes explique aussi qu'à côté de cette activité d'entreprendre, il y a l'activité de spéculer, qui est un groupe d'acteurs très différents, qui eux cherchent à gagner de l'argent en menant une activité qui n'a aucun rapport direct avec la sphère productive, avec la sphère de production de richesse, qui consiste simplement à jouer à la hausse ou à la baisse des prix. Par exemple, les prix des monnaies, c'est ce qu'on appelle les taux de change, les prix boursiers, les cours de change, mais ça peut être aussi la spéculation immobilière. Alors cette activité-là, elle a un rapport direct et souvent négatif avec l'activité d'entreprendre. Pourquoi? Eh bien, quand on spécule, c'est-à-dire qu'on prend des ressources financières qu'on ne consacre pas à l'activité d'entreprendre. Donc, si vous voulez, déjà, il y a un choix. Et plutôt que d'encourager la production de richesses et d'augmenter le bien-être de la population par plus de biens et de services qui sont créés, on préfère utiliser cet argent pour spéculer. Il y a une diversion, il y a une activité qui est parasitaire, on pourrait dire aussi, qui s'exerce sur l'activité.
Le groupe fabricant de cigarettes Altadis, l'ex-Seita, a confirmé mardi la suppression de 700 emplois. Les salariés protestent contre ce qu'ils appellent des licenciements boursiers, soulignant les hausses des bénéfices de la société depuis deux ans.
Colère des syndicats contre Michelin, qui fait de gros bénéfices et supprime 7500 emplois.
Veillée d'armes chez Moulinex. 1100 emplois sont menacés, nombre de salariés sont choqués.
Il apparaît qu'aujourd'hui, les actionnaires retournent leur veste, je crois qu'on peut le dire comme ça.
À Lannion, Alcatel a prévu de sacrifier 1400 emplois d'ici la fin de l'année. Ici, c'est Mitsubishi qui taille dans ses effectifs.
À la raison de notre colère, elle se résume en quelques chiffres. ST Microélectronique, 9 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard de bénéfices, 40% de marge brute. Et ST licencie 600 personnes à Rennes.
Mais il y a plus grave. Lorsque les gouvernements des pays en voie de développement s'endettent à l'international, par exemple en empruntant du dollar, pour financer leurs importations ou pour financer un déficit budgétaire, par exemple. Bon. Eh bien, après, ils sont à la merci de la spéculation internationale. Pourquoi? Ben parce que les investisseurs vont venir acheter, par exemple, leurs bons du Trésor, vont venir acheter leurs dettes, mais s'ils ne sont pas satisfaits des rendements qu'on leur donne, par exemple, ou s'ils ont une inquiétude sur, par exemple, la stabilité d'un gouvernement, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont immédiatement déplacer leur argent, vendre les titres, et quitter le pays pour aller sur un autre pays qui leur inspire davantage confiance ou où ils espèrent des rendements meilleurs.
Par exemple, c'était le cas en Argentine.
Ah ben ça, c'était le cas en Argentine, mais c'était le cas aussi au Mexique en 94-95, en Russie en 1998, en Asie du Sud-Est, il y a eu une grande crise en 97-98, d'ailleurs qui est à l'origine de la naissance d'attaque, hein, qui est née comme en réaction contre cette spéculation internationale qui était dévastatrice pour les pays. Par exemple, en Indonésie, il y a eu des millions, des dizaines de millions de travailleurs dans les villes, les grandes villes, qui ont été jetés à la rue parce que les entreprises avaient fermé leurs portes, parce qu'elles avaient été totalement déstabilisées par la spéculation internationale, c'est-à-dire le fait que les investisseurs avaient mis de l'argent dans ces entreprises et s'étaient retirés brutalement pour prendre leurs bénéfices. Et donc, ce que ne voient pas ces spéculateurs, et ce qu'ils ne veulent pas voir d'ailleurs, probablement, c'est que leur activité, en fait, peut avoir un coût pour la société absolument considérable, pas à chaque fois évidemment, mais quand les affaires tournent mal, parce que en fait, ce qu'on sait bien aussi, c'est que les spéculateurs ont un comportement grégaire et mimétique. C'est-à-dire qu'ils vont tous dans le même sens au même moment.
Vous voulez analyser le comportement des acteurs à la fermeture des marchés ? Savoir comment ils modifieront leur jeu demain ? Faites confiance aux spécialistes.
Vous voulez un compte-rendu de la séance ? On s'en charge.
Tout à vos bourses à 17h30 sur Bloomberg Télévision.
On est en fait confronté au dédoublement de sa personnalité. C'est-à-dire, vous avez le côté rationnel qui vous dit « Ok, j'ai un gain, clôturons la position, fermons la bécane et allons faire un tour avec les enfants. » Et puis il y a le côté mauvais de soi-même qui vous dit non, non, reste dans la position ou augmente la taille de la position. Donc pour le trader, c'est en fait une véritable un véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ces mauvaises pulsions.
Donc vous dites, si on joue scientifiquement, en se contrôlant psychologiquement, en jouant 10 minutes à une demi-heure par jour, on parvient à doubler son capital en un an.
Mais vous voyez comme ça a bougé, on était à plus 95, maintenant on est à plus 155.
C'est-à-dire que là, la bourse, elle descend, et vous, vous gagnez quand même de l'argent.
Oui, parce que j'ai vendu à un prix élevé en vue de racheter à un prix inférieur, quoi. Donc ça s'appelle vendre à découvert ou vendre short dans le jargon un peu anglo-saxon. Vous voyez, ça va dans notre sens, donc...
Là, on a 215 euros.
Ouais.
Ça, c'est pour un investissement de combien ?
1500 euros.
Donc là, on est à 225 euros. Donc là, vous avez un rendement qui est déjà de 15% en 20 minutes.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Chaque jour, vous avez une espèce d'explosion, un spasme. C'est comme si vous jetez une pierre dans l'eau. Paf ! Le marché est très... Je vais vous montrer. Il y a deux jours, le marché s'est un peu emporté. Il a fait un gain énorme en quelques secondes. Hein, mais vraiment, parce que... Je vais juste montrer la taille, quoi. Voilà. Cette immense bougie qui représente, allez, si je prends tout ça, ça représente 140 points en l'espace de, je sais pas, 10 minutes. Une personne qui aurait été positionnée sur le CAC, elle aurait capturé 840 en 10 minutes.
840 euros, ça veut dire là un rendement de plus de 60% en 10 minutes.
Oui.
Et vous, vous y étiez positionné à ce moment-là ?
Et moi j'étais positionné.
Donc vous avez gagné, vous les avez gagnés les 840 euros.
Moi j'ai gagné. Moi j'avais gagné 700 euros. Mais une fois de plus, je dirais, il faut pas se focaliser sur l'aspect argent. Il faut se focaliser sur l'aspect bonification de soi-même. Quelqu'un qui a trop d'ego, par exemple, peut pas réussir parce que le marché n'a pas de chef et lui peut pas tout seul aller se mettre face au marché et essayer de faire gagner son trade face à tous les autres. Donc c'est aussi un exercice d'humilité, quoi.
Voilà, c'est pas l'église de Scientologie, c'est pas un témoin de Jéhovah, c'est pas une religion véritablement, c'est pas un prêcheur que vous venez d'entendre, mais ça y ressemble pas mal. C'est un militant de la spéculation libérale, un type tout à fait sympathique, qui s'appelle Pascal Hirtz, et que nous rencontrons dans ce salon qui s'est tenu fin mars, salon d'analyse technique et de trading. Pourquoi ça? Parce qu'il est grand temps, amis auditeurs de la Bourse J'y suis, de comprendre dans quel monde vous vivez, vous êtes archaïque, vous êtes en retard, etc. Et il est grand temps d'optimiser votre portefeuille, d'améliorer vos résultats, d'échafauder un scénario d'intervention, et puis surtout essayer de déterminer les retournements de marché et repérer les signaux ou points d'entrée les plus appropriés, ou encore trouver là où les méthodes d'intervention les plus adéquates, bien évidemment, c'est ce que vous attendez de nous et d'une radio comme France Inter, c'est vous permettre de vous enrichir. Alors on continue donc dans ce salon avec Pascal Hirtz.
Le nom de votre société, c'est Self Invest.
Ouais,
donc
ouais.
Investis toi-même en français.
Bah, le trading s'est beaucoup démocratisé parce que il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les métiers de gestion, les métiers de courtier, de prendre l'or de son client, tout ça c'était en fait géré par les mêmes maisons quoi. Et puis il y a eu une déréglementation dans les années 70, 80, et l'internet à la fin des années 90. Maintenant n'importe qui peut ouvrir un compte.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu un mouvement politique de déréglementation et puis un mouvement technologique. C'est ce double mouvement-là qui a permis la démocratisation de...
Si on veut, oui, on peut dire ça comme ça.
Finalement, c'est de la spéculation au jour le jour, ce trading.
Oui. À la limite, notre client fait la même chose qu'un hedge fund, hein. qu'un gérant de hedge fund. La seule chose, c'est que chez nous, il va le faire à une petite échelle et le hedge fund va le faire à une grande échelle.
Et quand il y avait des propositions à un moment de dire qu'il faut taxer la spéculation, qu'est-ce que vous en pensez?
Comment dire, c'est la réaction, on va dire, typique des gens un peu ultra-gauche. Je dirais qu'ils comprennent pas grand-chose à l'économie. Enfin, qu'ils voient du mal où il n'y a pas de mal, quoi. Si leurs recommandations étaient appliquées, grosso modo, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait soit l'argent va ailleurs, moins d'investissement, moins de prospérité à long terme, quoi. En fait, l'être humain, il est naturellement créateur de richesses. Tant que, je dirais... Tant qu'il n'y a pas d'inflation, tant qu'il n'y a pas de guerre, et tant que l'économie n'est pas étouffée par l'État, la richesse s'accroît.
Est-ce que vous voyez des risques aujourd'hui que l'économie soit un peu étouffée par l'État? Il y a des mesures qui vous font peur?
Ben, je dirais que... il y a une chose qui, à mon avis, que nos zones politiques n'ont pas compris, c'est en France, par exemple, au niveau de tout ce qui est imposition, si ce niveau de taxation était baissé, mais massivement, pas d'1% ou 2, mais si on passait, je ne sais pas moi, de 38 à 28... Ce qui a été fait dans plein d'autres pays. Mais les gens se lanceraient. Si on baisse ces fameux impôts, etc., la France, c'est comme si elle devenait soudainement un aimant pour tous les investissements. Et ça contribuerait alors à la croissance. C'est comme ça que la croissance se crée, quoi. Je crois que intellectuellement, les idées n'ont pas pénétré le pays. Ces idées-là, elles étaient minoritaires en 1960. Mais il y a des gens comme Milton Friedman, Hayek, et ces idées libérales en France, elles sont en totale minorité, quoi. Il faut une fois expliquer ça aux Français. Le détonateur, c'est la baisse des impôts. Il n'y a pas photo. Ben, la France a besoin d'ouverture. Il y a trop de gens qui sont dans la fonction publique. Il y a trop de gens qui ne sont pas assez ouverts. Et alors vous êtes...
On travaille à la rédaction. Moi, la rédaction, ouais. Il m'a demandé de faire un peu plus de finance, quoi.
Ouais, ouais.
Bon, parce qu'il y a Jean-Marc Sylvestre matin.
Oui, oui.
Ouais. Il y a Brigitte Jean-Perrin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Marc Sylvestre, Brigitte Jean-Perrin, c'est quand même...
Non, ça va dans le bon sens. Et il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est le dimanche matin.
Samedi matin, rue des Entrepreneurs.
Rue des Entrepreneurs, c'est pas mal aussi. Il y a un mouvement au niveau des idées. Ce mouvement, il est inexorable. Il est en train de contaminer tout le monde, mais je dirais dans le bon sens, quoi. Au niveau des idées, ça commence un peu à aller un peu plus vers la droite. Mais c'est aussi parce que les gens y voient. Et seulement, il y a juste la France est un peu imperméable. C'est très intéressant, vous devrez une fois aller, une idée de reportage, aller une fois dans une librairie, prenez un petit échantillon de vraiment les auteurs libéraux. Hayek, Milton Friedman. De temps en temps, on en voit un. Mais allez voir tous les autres livres qui cognent sur le capitalisme et des étagères pleines, quoi.
Mais l'imprimerie, ça a toujours été un peu aux mains des marxistes,
ouais.
Quoi.
En plus, quoi.
Ah oui, faut vous méfier de l'imprimerie, hein. Mais je vous signale, en toute objectivité, un numéro du Point, Le Point, un hors-série, avec les textes fondamentaux du libéralisme, présentés par Nicolas Babrez, Raymond Boudron, Lucien Jaume et Jacques Marseille, avec des textes de Smith, Tocqueville, Hayek, etc., et pour édifier votre connaissance et votre conscience sur ce qu'est véritablement le libéralisme. Mais à cela, il manquera tout de même la dimension un peu magique, la dimension psychologique. Eh oui, psychologisons la vie un peu plus et puis enrichissons-nous psychologiquement avec André Brignone, rencontré dans ce salon d'analyse technique et de trading.
Être en forme, j'appelle ça la juste attitude, c'est-à-dire une attitude de vide mental permettant d'agir sur le marché. Si vous êtes en train de trader et que vous vous dites « je risque de perdre l'argent de mes vacances en ce moment si jamais ça ne va pas dans le bon sens », ben vous êtes fichu dès l'origine. Pour cela donc, il y a toute une série, je dirais, d'entraînements qui permettent, si vous voulez, en utilisant la respiration, en utilisant certaines techniques de décontraction rapide, en utilisant des techniques de reprogrammation du cerveau qui vous mettent dans la bonne attitude, vous permettant de réagir exactement, de réagir quand il le faut. De nombreux traders agissent, font tous leurs plans de façon complètement décontractée et au moment d'arriver à l'action, ils sont affolés parce qu'ils voient le marché qui part dans un sens, ils se jettent dessus. Toujours pour ceux qui ont suivi mes conférences, vous savez comment vient l'affolement dans le système, comment le cerveau va petit à petit vous bloquer totalement pour vous faire faire ce que vous ne devez pas faire. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que l'aspect psychologique a une énorme importance quand les marchés deviennent très volatiles, deviennent très mouvementés et très brusques. Voilà, comme on dit au Théâtre des Deux Ânes, soyons fins et printaniers. Merci, posez les questions maintenant si vous voulez.
Donc, vous êtes un spécialiste, monsieur, de la psychologie des marchés.
Oui. Qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'investisseur? Ben, c'est, l'investisseur, il a besoin d'avoir une certaine attitude vis-à-vis du marché. Cette attitude doit être une attitude d'un certain détachement qui lui permette de se mettre exactement en phase avec le marché. Donc, si vous voulez, ce que nous essayons de faire, c'est d'orienter les gens à travers nos livres, à travers les conférences, à travers un certain nombre de choses, vers l'acquisition d'une attitude que nous appelons la juste attitude et qui permette de se mettre exactement en phase avec le marché, parce que le marché a un énorme inconvénient. Non seulement il peut atteindre votre capital financier, mais il peut atteindre votre capital santé.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire, quand un trader a, par exemple, brutalement une baisse alors qu'il était à la hausse, il va ressentir un choc psychologique très très important. Petit à petit, son humeur va changer, il va se transformer, il va avoir des problèmes avec sa famille, il va y avoir toute une série de conséquences qui vont arriver du fait, si vous voulez, de la mauvaise gestion du mouvement de marché vis-à-vis de soi-même.
Et donc, comment il faut ouvrir une cellule d'écoute psychologique? Comment on fait?
Pas du tout. On se prend en main. Et c'est pour cela que mon livre s'appelle en particulier « Le Tao de la bourse et du trading », parce que c'est une attitude. Vous vous transformez petit à petit, vous vous formez en quelque sorte à avoir un comportement psychologique qui est adapté exactement à celui du marché. Et à ce moment-là, vous vous faites une danse avec le marché, c'est-à-dire que vous dansez dans la bonne mesure et avec le bon tempo.
Comment je peux faire, moi, pour devenir en phase avec le marché?
La première chose à faire, c'est prendre conscience de son propre comportement. Et ensuite, il existe toute une technique à la fois de relaxation, de reprogrammation de son cerveau, de reprogrammation de son comportement, pour pouvoir petit à petit, exactement si vous voulez, comme un judoka va devenir un intuitif en quelque sorte du mouvement de l'adversaire, vous allez devenir un intuitif du mouvement du marché. Vous-même, vous aurez intégré la danse du marché.
Et c'est parce que vous avez rencontré dans votre entourage, dans vos proches, des gens qui ont eu les gros coups au moral?
Absolument. J'ai rencontré, ma femme fait du trading d'une part, moi-même je fais du trading, mais en plus de ça, si vous voulez, j'ai rencontré un certain nombre d'amis qui avaient d'énormes problèmes et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir comment modifier ce comportement. Ça demande, si vous voulez, la remise en forme d'un trader qui a eu de gros chocs, demande en gros 2 mois.
C'est-à-dire que le fait d'avoir subi un échec, après on a la peur, c'est comme quand on est tombé à vélo ou quand on est tombé au ski.
Absolument.
On a peur de se remettre sur le marché.
Absolument. Et ce qui est plus grave, c'est que le marché vous donne toute une série de coups souvent. Et donc quand vous arrivez à ramasser 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, vous vous remettez vous-même en question. Le plus grave, c'est que le trading vous remet en question votre propre personnalité à vos yeux. Et c'est là où vous commencez à vous détruire petit à petit.
Vous avez déjà la pipe du psychanalyste. Vous comptez pas ouvrir un cabinet ?
Pas du tout. Mais enfin, je fais déjà du coaching d'investisseurs. Ça, c'est autre chose.
De plus en plus, ça devient le métier de banquier. Les banques sont entrées en force, montent en puissance sur cette activité parce que les autorités de réglementation doivent encore donner leur aval à gagner plus de 13%.
Politique, j'ai une petite anecdote à vous donner. C'est ma plus grosse perte en bourse. Elle a eu lieu en 1995, à l'été 1995, quand Alain Madelin s'est relativement chamaillé à Brégançon avec Alain Juppé. Alain Madelin, ministre des Finances de l'époque, a démissionné. Donc ça a eu un impact immédiat sur les marchés financiers. On est passé d'un CAC qui était dans les 2000 à 1713. Donc il y a eu une très forte incidence de cet événement politique français sur le marché français en 1995. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1997, deux ans plus tard, quand Dominique Strauss-Kahn a lui aussi démissionné. Dans la journée, il y a eu une petite baisse intraday de 2%. Je crois que même qu'on a dû finir la journée positive et le marché a continué son mouvement, sa hausse. Donc en 1995, il y a vraiment eu une charnière. On a vraiment eu une conversion de l'économie française à l'économie de marché.
Donc finalement, la politique, là, elle finit par n'avoir plus de poids face...
Aujourd'hui, 10 ans après, c'est 10-12 ans après, puisque en 1995, l'élection de Jacques Chirac s'est faite sur le thème de la fracture sociale. Donc il y avait, vous vous en souvenez peut-être, à l'automne 1995, on a eu les plus dures grèves de l'après-guerre. Moi, j'étais fonctionnaire à l'époque, j'étais donc dans l'armée. On est même allé nous dire, vous ne serez peut-être pas payé. Donc c'était un truc irréaliste, mais allez nous dire... Il y aura peut-être des problèmes pour vous payer. C'était quand même quelque chose de grave. C'était pour dire que c'est, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc, à cette époque-là, le président Chirac est allé devant le Congrès et le Sénat américain. Il a, en quelque sorte, dit, bon, ben, maintenant, je me convertis à l'économie de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une politique, il a été élu sur une politique en mars 1995. Et en octobre, déjà, il changeait de politique. Il y a eu un changement complet de politique. Et c'est à partir du moment où il y a eu cette orientation sur l'économie de marché. Le CAC est passé de 1700 points à, comme on le sait, à 7000 points, avec des exagérations.
Donc c'était une bonne nouvelle, cette conversion. C'était une conversion réaliste.
Voilà, tout à fait. Parce que la France ne peut pas être isolée.
Mais non, la France ne peut pas être isolée. Ainsi parle Alain Véroque, qui est créateur de ProAT, le principal site communautaire des traders. Je vous rappelle qu'on est dans ce salon du trading. Et bien, ce que vient nous dire Alain Véroque, c'est que la politique est sans conséquence sur la finance. Il vient de nous expliquer les moments, les charnières historiques de cette conversion, a-t-il dit. Qu'en pense Dominique Plion, économiste et conseiller scientifique d'Attaque aujourd'hui? Quelles sont les réactions, les positions des élites politiques qui briguent nos suffrages face à la confiscation, à la prédation de l'économie par la spéculation?
Il y a 26 ans maintenant, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, la bourse avait chuté en une seule journée. Là, quand on interroge les traders sur les conséquences des résultats de l'élection présidentielle française sur les marchés, sur leur activité et puis tout ça, pour eux, que ça soit Sarkozy, que ça soit Bayrou, que ça soit Royal, c'est du pareil au même.
Aujourd'hui, les socialistes, par exemple, sont devenus des sociolibéraux et se coulent totalement dans le moule de l'économie, du capitalisme financier. Même s'ils ont des discours parfois agressifs, et que ça soit Sarkozy, d'ailleurs, ou Bayrou, ou bien Ségolène Royal, ils ont aussi des discours du même genre. Critique hein, par rapport à la spéculation, on a entendu Chirac aussi dans son temps, ils ont tous fait les mêmes discours. C'est pour donner le change, sur le plan intérieur notamment, mais en fait, on l'a bien vu que les politiques qu'ils mènent ne s'attaquent absolument pas aux racines de la spéculation et de la financiarisation de nos économies. Bon, moi, mon analyse, notre analyse à ATTAC, c'est qu'il y a une alliance des élites politiques, des partis de gouvernement, donc dont le Parti socialiste, dont l'UDF, dont l'UMP par exemple, avec les élites économiques et financières. Donc ces gens-là ont parti liés. Hein. Et il y a un vrai problème aujourd'hui de confiscation, de prédation hein, des marchés financiers sur la sphère réelle, sur les salaires dans nos économies. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants des grands partis ne veulent pas aborder parce que encore une fois. De notre point de vue, ils ont fait alliance, ils ont parti lié avec les élites économiques et financières. Donc, il n'y a absolument plus d'inquiétude. I'm crazy about money. I'm crazy about gold. Come and see me, honey. How deep is my soul? He's crazy about money. He's crazy about gold. Come and see him, honey. Semas, ando sono di clemas, ma non sai, sa, che c'ha vando del. Me bucciardo semas, che se buccia camavas, nai business, nai, ma non c'è cipel. A cana sembarvalo, faccia vando l'usco bravo. Democratia, sì, cirvea orta. Efta castella, efta rivela, efta cotora, cerne suna chea, ande sai, so, barba lippe morta.
Qu'est-ce qu'on dit? Merci là-bas, si j'y suis, je vais m'enrichir grâce à vous, grâce à François Ruffin, qui est l'auteur de ce reportage, grâce à nos invités du jour, André Malpel, Pascal Hirt-Serico, Andrea Brignone, Pierre-Antoine Dussoulier, Alain Weisrock, Dominique Pillon et François Morin. Merci à tous, de François Morin à lire Le Nouveau Mur de l'Argent aux éditions du Seuil, et Olivier Gauthier, Les Traders, aux éditions de la Découverte. Toutes les Ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter en principe, si ça marche, cette émission, ou bien vous pouvez la réécouter sur là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis, là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari, c'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale, il faut le dire. Et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. On y attend vos messages, vos coups de gueule et vos coups de cœur. Et c'est Charlotte Perry qui nous assiste dans cette aventure. Le mail de la basse Gispi, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.